On va continuer dans Jacques chapitre 5. Et on avait vu au verset 7 hein, que le Seigneur attend la grande moisson. Jésus revient, nous avons vu que le Seigneur va venir récolter sa moisson parce qu'il n'a pas semé sa vie pour qu'il n'y ait rien qui se passe. Mais toutes les paraboles que Jésus a données sur le royaume des cieux ou le royaume de Dieu prendront toute leur réalité au moment où Jésus va revenir. Donc je vous ai expliqué des choses sur le retour du Seigneur. Je pense que je vous ai expliqué, certains qui ne connaissaient pas cette doctrine, maintenant vous savez à peu près ce qui va se passer. En gros. Verset 9, Jacques va continuer. Alors là encore, Jacques, hein, Jacques le proverbiste du Nouveau Testament, va changer d'idée à chaque fois. Alors il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Alors la Bible est très claire par rapport à la plainte les uns envers les autres. Il faut quand même comprendre que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Pas à nous plaindre les uns des autres. Mais il est vrai qu'il y a certaines personnes qui parfois peuvent causer des problèmes dans le corps de Christ. Mais il faut aussi que nous puissions apprendre à se porter les uns les autres d'abord. Et à ne pas se critiquer les uns les autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à développer rapidement un esprit critique dans leur vie spirituelle. Et si vous critiquez, si vous n'arrêtez pas de vous plaindre des frères, des sœurs, etc., eh bien vous verrez que votre fraîcheur spirituelle va rapidement disparaître. Donc il faut apprendre d'abord à faire ce que Colossiens 3:13 nous dit. Colossiens 3, verset 13 nous dit la chose suivante. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Supportez-vous, c'est pas une bonne traduction, en tout cas en français, je sais pas comment ils ont traduit ça en Kirundi, mais l'idée c'est de porter les fardeaux les uns des autres. Vous savez, parfois on peut passer par des moments difficiles où on peut être peut-être désagréable. Et la Bible nous dit clairement de prier les uns pour les autres. De se porter les uns les autres. Bien sûr, dans une certaine mesure. Parce qu'il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui sont plus forts. Et il y a des moments où on peut être plus fort et il y a des moments où on peut être plus faible. Donc c'est sûr que quand nous sommes plus faibles spirituellement, nous avons tendance à être plus charnels. Vous avez remarqué ça, non? Personne n'a jamais remarqué ça? Hein, quand on est un peu plus faible spirituellement, on a tendance à être charnel. Donc quand on est charnel, ben, en général, on dérange les autres. Et à ce moment-là, on commence à faire ressortir nos défauts. Donc la Bible nous dit de nous porter, de nous aider les uns les autres. C'est-à-dire de nous porter dans le sens de spirituellement, quand tu vois que ton frère est un peu faible, cherche à l'aider. Maintenant, il y a des personnes qui ne veulent pas être aidées. Mais notre rôle, c'est d'aider au départ. D'être des soutiens les uns les autres. Un soutien dans la foi. Un soutien aussi au niveau de l'âme, moralement. Un soutien dans tous les domaines. domaines à partir du moment où nous pouvons le faire. Et de nous porter les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qui doit être une manifestation de l'amour dans le corps de
Christ.
Maintenant, bien sûr, dans la vie spirituelle, on va rencontrer toutes sortes de gens. Des gens qui sont bien intentionnés, mais qui sont faibles. Et là, on doit les aider. Maintenant, il y en a d'autres. Il faut être un peu plus prudent avec eux. Parce que ce sont des gens qui, finalement, sont là pour vous pomper spirituellement. D'autres sont là parce qu'ils n'ont pas de bonnes intentions, mais ils essayent de tirer quelque chose, etc., etc. Et ils jouent les faibles devant vous. Mais quand vous savez qu'une personne vraiment a un bon cœur et qui passe par un moment difficile, parfois qui peut faire une faute envers nous ou envers d'autres frères et sœurs, la Bible nous dit de nous pardonner les uns les autres, comme Christ nous a pardonné. Un réel pardon avec une repentance amène une restauration. Comme le disait un jour un frère, il donnait cette illustration. Il disait, vous savez, quand vous regardez dans les rivières, vous trouvez souvent des cailloux, des galets qui sont bien polis. Et on aime bien des fois utiliser pour certains jardins quelque chose, vraiment des galets qui sont bien ronds, bien doux pour la
décoration.
Mais ces galets, ils ne sont pas venus comme ça tout seuls. Dieu n'a pas créé les galets tels quels, bien polis, bien ronds. Un jour, il y a un morceau de montagne qui s'est détaché. Et il a été dans la rivière, ce morceau de montagne. Et avec l'eau, et avec les frottements, il y a des grosses pierres ou des pierres un peu plus petites qui se sont détachées. Et ces pierres, elles se sont cognées dedans. Boum! Très fortement. Et petit à petit, en se cognant les unes dans les autres,
eh
bien, les angles un peu tranchants se sont cassés. Et petit à petit, eh bien, en se cognant les unes contre les autres, elles se sont polies les unes avec les autres. Et des siècles, des millénaires, des millions d'années plus tard,
tu sais,
ils ont donné ces jolis galets bien, bien polis. Et ça, c'est une image de notre vie chrétienne. Obligatoirement dans nos relations, nous avons dans notre caractère des angles tranchants pour les autres.
Un placide,
j'ai des angles tranchants.
Amen,
hein.
Amen.
Amen, que ce soit ton pasteur, il a des angles tranchants. Hein.
Ah oui, comme tout le monde.
Il se récupère. J'essaie de le piéger, mais j'ai pas réussi. Nous avons tous des angles tranchants, quelque part. Et dans la vie d'une église, nous sommes là justement et ben, de temps en temps pour nous rentrer dedans aussi. Et ce qui doit en sortir, c'est un certain polissage. Et ce polissage vient justement en se portant les uns les autres. Des fois, il y a des gens qui sont dans ton entourage, des frères ou des sœurs en Christ, qui sont moins matures que toi et qui ont des problèmes. Sérieux. Et qu'est-ce que tu fais? Tu les portes dans la prière.
Et
j'attends beaucoup de vous dans les groupes de maison. Je vais plus entendre de plaintes, pasteur. Je sais pas quoi faire dans l'église. Vous allez avoir du boulot. Et du bon boulot. Vous êtes prêts, j'espère. Parce que là, vous allez bosser sec. Moi, je vais prendre un peu de congé comme ça. Je vais vous observer. Amen. Mais il y a du travail à faire dans ce domaine. Et du travail qu'on doit tous faire. Quand tu pries pour ton frère, pour ta sœur, c'est toi qui as vraiment un problème sérieux. Je
ne
parle pas forcément d'un problème dans lequel il est tombé, mais par exemple des problèmes de caractère parfois. Quand tu le portes, tu l'exhortes. Quand tu le portes, tu le pardonnes parce qu'il t'a fait certaines choses.
Et
on doit apprendre. On doit apprendre. Les pierres se cognent parce qu'elles sont les unes à côté des autres. Vous savez, il y a des gens qui sont souvent s'isolent parce que comme ça ils n'ont jamais de conflit avec les
autres.
Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas comme ça qu'un caractère peut être travaillé entre un frère et une
sœur.
C'est pas comme ça. C'est quand justement il y a des moments qui sont plus difficiles et on est là en train de travailler dans une vision d'église et dans un coup boum,
oh,
il m'a fait mal celui-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais tout abandonner ou est-ce que je continue justement dans la vision? On porte, on pousse, on tire parce que notre objectif est d'atteindre le plus possible, d'influencer le plus possible. L'église de Dieu doit influencer ce monde et elle peut influencer ce monde seulement au travers de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et c'est quand nous sommes ensemble dans une même vision, quand nous nous portons les uns les autres, quand nous nous cognons les uns les autres et que les angles commencent à se casser petit à petit, quand nous vivons des expériences en commun, des expériences glorieuses, des expériences difficiles dans les montagnes, dans les vallées, c'est ça qui nous forme. Amen. Une vie d'église, c'est ça. Une vision, c'est ça. Une vision d'église, c'est ça. Une vision d'église, c'est pas des gens qui viennent, qui rentrent à l'église, qui sortent de l'église et qui font Amen.
J'ai été béni aujourd'hui.
C'est pas ça dans une vision d'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui
ne
comprennent pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas que normalement l'église est comme une spirale. Je vous assure, moi, quand j'étais aux États-Unis, on était dans un endroit où il y avait des tornades. Ces tornades, c'était vraiment bizarre. C'était la première fois qu'on voyait ça, ça nous avait affolés. Vous voyez des trucs. De loin, c'était pas très large. C'était haut. Mais c'était un vent terrible qui tournait. Et ça emmenait tout sur son passage. C'est ce que l'église devrait faire. Aspirer les gens pour le Seigneur. Comme ça. Être un pôle d'attraction. Et ce pôle d'attraction, il est là si t'es dans une vision. Et que tu marches dans une vision, dans la vision de l'église. Et quand chacun d'entre nous, on est là, et c'est vrai qu'il y a des moments où les cailloux vont se
cogner,
boum, et là tu portes ton frère, tu portes ta sœur, tu l'aides à ce qu'il soit poli,
qu'il devienne
meilleur, que son caractère soit affiné, qu'il pratique plus la parole de Dieu, parce que tu l'as provoquer à pratiquer la parole de Dieu, qui soit plus sensible à l'Esprit de Dieu, parce que tu lui as raconté comment tu as été touché par le Seigneur et que tu l'amènes lui-même à rentrer dans des expériences.
Et
ça sera pas facile, non, ça sera pas facile, mais peu importe, parce que nous sommes dans une vision. Cette vision, c'est de pouvoir être influent pour la gloire de Dieu dans cette région où nous sommes, afin que ceux qui rentrent et qui sont au milieu de nous soient touchés par la puissance de Dieu, soient touchés par la parole de Dieu, soient touchés par l'amour qu'il y a, et se disent vraiment ici là, soit je rentre et je m'implique, soit je fuis. Moi, c'est ça que je veux voir. Soit des gens qui rentrent et qui s'impliquent et qui sont aspirés, ou soit des gens qui fuient parce qu'ils veulent pas changer. Amen. C'est ce que l'église devrait faire. C'est ce que l'église devrait produire. Soit attiré, et alors radicalement amener le changement par la puissance de Dieu. Soit écarté parce que la personne ne veut pas changer, mais ne pas avoir des gens qui rentrent, qui sortent, qui n'ont aucune vision, qui ne comprennent rien à rien. Regardons maintenant Galates
6,
un principe spirituel ici. Il dit, frère, si un homme, verset 1, vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous vous rappelez de ce que c'est que la loi de Christ? Il n'est pas dit la loi de Moïse ici, hein? Jésus a dit quoi? Il a dit que tous les commandements de la loi sont résumés en un seul commandement. C'est lequel?
Aimez-vous les uns les autres.
Amen. Et quand tu portes un fardeau, quand tu redresses un frère qui est dans une faute, tu accomplis la loi de Christ. Si tu le fais dans la bonne attitude, bien sûr. Si tu le fais dans la bonne attitude, ça fait partie de porter les fardeaux des uns des autres. Quand tu vois ton frère qui est en train de s'égarer, si tu l'aimes, tu vas le voir et tu le reprends dans l'amour au temps opportun. Si tu sens pas qu'il faut le reprendre directement, tu pries pour lui et tu demandes à Dieu une opportunité d'aller le voir ou que quelqu'un aille le voir. La Bible dit que nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons pas faire le KGB les uns sur les autres, mais nous devons veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que nous savons il y a des dangers dans ce monde et il y a des moments. Vous savez, un frère ou une sœur peut passer par un moment difficile. Ça arrive à tout le monde. À un moment où c'est tellement difficile dans sa vie qu'il se sent découragé.
Ce
n'est pas le moment de lui faire un croche-pied pour qu'il tombe ou un poignard dans le cœur pour qu'il meure. Ou lui raconter tout et n'importe quoi. C'est le moment de porter son fardeau. Dans la prière, de l'exhorter, de l'encourager, et d'essayer de le ramener dans le droit chemin parce qu'il est en train de s'égarer. Et ça, c'est l'amour du Seigneur, c'est porter le fardeau les uns des autres. Se plaindre n'est pas la solution. Maintenant, c'est sûr, et nous le savons, il y a des gens qui ne sont pas clairs. Il y a des gens qui refusent. Toi, tu dois faire ton boulot. Tu pries pour la personne qui a des problèmes, qui passe par un moment difficile, tu l'exhortes, si tu sens dans ton cœur d'aller l'exhorter. Le résultat, ce n'est pas toi qui en es responsable.
Ce
n'est pas ta responsabilité. Il y a un moment où tu dois dire, bon, bah, écoute, hein, moi, si tu ne veux pas écouter mon exhortation, il y a un moment, même des fois dans la prière,
hein,
il y a des moments où des fois Dieu nous dit, non, laisse-le. Laisse les choses. Tu laisses. La personne commence à dévier. Quelque temps après, elle reviendra elle-même. La plupart du temps, pas toujours.
Des
fois, ça peut durer des années. Malheureusement. Mais notre rôle, en tout cas, c'est de nous exhorter les uns les autres, de porter les fardeaux les uns les autres. Pas de se critiquer les uns les autres. Pas de se lancer des pierres les uns aux autres. Et quand quelqu'un fait ça, il porte le fardeau de son frère ou sa sœur, la Bible nous dit qu'on accomplit la loi de Christ. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à être. Mais là encore, c'est pour ça que moi, l'Église, l'église supermarché, j'en veux pas. Je veux que chaque personne dans cette église soit encadrée. C'est une des raisons des groupes C'est une des raisons des groupes de maison. Pourquoi? Parce qu'on veut que chaque personne puisse être encadrée quelque part. Pour qu'elle puisse avoir l'amour de Christ témoigné. Pas être quelqu'un d'isolé. Ou quelqu'un qui essaye de se débrouiller par elle-même alors que la personne a besoin du soutien de ses frères et sœurs. Verset 10, on va reprendre Jacques. Jacques va nous parler de quelque chose d'extrêmement important. Il va dire, verset 10, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Regardez bien ce mot ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Ici, Jacques nous exhorte à regarder à ceux qui sont cités dans la parole de Dieu et les prendre comme exemple à propos de leur fermeté, à propos de leur persévérance. Et ça, c'est très important parce que Dieu veut qu'on apprenne à être ferme. On va parler de la fermeté maintenant. Dans Ésaïe, chapitre 26, verset 3, Dieu nous donne une clé pour la vie, d'une manière générale. Si vous voulez réussir votre vie avec Dieu, vous devez adopter une certaine attitude qui au début n'est pas très facile. Au verset 3 d'Ésaïe 26, Ésaïe va vraiment donner par le Saint-Esprit une clé qui à nous parle, nous les chrétiens, nés de nouveau aussi. Dieu dit dans sa parole à celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses dispositions, dans ses décisions, tu lui assures la paix.
Masa umuntu akwegamika ko umutima wiwe kuko akwizigiye nibisobanuka neza ariko icyo ashatse kuvuga cyane cyane nuko ushikamye imana muha mahoro yiwe.
Il y a quelque chose que vous devez comprendre dans votre vie spirituelle. Vous savez, on se convertit, on donne notre vie au Seigneur et on
n'a
aucune idée le jour où on reçoit le Seigneur des principes du royaume de Dieu. On ne les connaît pas. Et ça, c'est tout à fait normal. Tu nais à une vie nouvelle. Tu es dans un royaume que tu ne connaissais pas avant. Tu nais comme ça, d'un seul coup. Comme quand tu es venu dans ce monde. Qui se rappelle du premier jour où il est venu dans ce monde? Impossible de s'en souvenir, vous êtes d'accord? Qui se rappelle au bout de 3 mois, quand on avait 3 mois, qu'on était bébé? Personne.
Et
6 mois, personne. 9 mois, personne. Une année. Personne. Peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Il y a peut-être certaines personnes qui ont des vieux souvenirs enfouis au plus profond de leur cerveau. Et c'est normal. Nous n'avions aucune conscience du monde qui nous entoure. Et spirituellement, c'est la même chose. Tu nais de nouveau et tu n'as aucune conscience du monde spirituel qui t'entoure encore. C'est quelque chose que tu vas découvrir d'année en année. Je dirais que malheureusement, certains chrétiens ne découvrent jamais rien.
Ou pas grand chose.
Ils restent bébés spirituels, ils comprennent rien au principe du royaume de Dieu. Tu es là, tu es dans ta vie spirituelle, tu commences à te planter dans l'église. Et dans cette vie, tu vas avoir un certain nombre d'adversités qui vont venir, de l'adversité naturelle, entre guillemets, de circonstances, diaboliques, toutes sortes de choses qui vont essayer de faire quoi? De te déstabiliser. De te déstabiliser. Ces circonstances vont essayer de te pousser. Le diable va essayer d'utiliser certains artifices classiques, quelques méthodes qu'il a l'habitude d'utiliser pour faire quoi? Pour essayer de te déstabiliser dans ta foi. C'est-à-dire qu'il sait qu'à partir du jour où tu as reçu Christ, tu es né de nouveau, l'éternité t'est assurée, le Dieu du ciel est venu habiter en toi, tu es une nouvelle créature en Christ, tu es parfait aux yeux de Dieu, tu es juste devant lui, tu peux te présenter devant lui, tu as toutes les richesses qui sont préparées pour toi, de la parole de Dieu, du royaume de Dieu. Mais ce qu'il va essayer de faire, c'est utiliser certains artifices
pour te déstabiliser. C'est pour ça que des fois on voit des gens comme ça. Ils donnent leur vie au Seigneur. Bon, ils passent par des moments difficiles ou par des tentations fortes ou des attaques sataniques et ils s'écartent. Il y a toujours une foi du salut. Quand vous parlez avec eux, il y a toujours une foi du salut. Mais leur vie n'est pas conforme. Il
n'y
a pas de fruit. Satan a réussi à les stériliser. Il a réussi à les stériliser. Pourquoi? Parce qu'il les a déstabilisés. Ils
ne
portent aucun fruit. Parce qu'ils ont été déstabilisés quelque part. Mais je veux dire une chose. Il
va
falloir que tu apprennes à pousser sérieusement et à tenir ferme. Il y a une décision que tu dois prendre dans ta vie. Quoi qui peut se passer. Quoi qui peut venir dans ma vie. Je servirai le Seigneur jusqu'à mon dernier. Tu peux être au milieu des pires circonstances. Tu peux dire non. Peu importe. Vous savez, des fois le diable il dit, mais là t'es foutu. À qui c'est déjà arrivé ça? Vraiment t'es foutu. T'es cuit, c'est fini. Bon, les autres ça va vous arriver.
Amen.
T'es là dans une circonstance, tu te baillards. C'est fini.
Satan a couvert tout.
Ou des circonstances mauvaises. Tu te sens submergé.
Tu as
toutes les belles promesses de Dieu devant toi.
D'un
seul coup, un vent souffle. Et tout s'écroule autour de toi. Tu pensais que ta prière était exaucée. Et ça
t'échappe
des mains. Ah, à qui c'est déjà arrivé ce genre de truc? Je vois que vous êtes des vrais chrétiens. Les autres, ça nous échappe d'un seul coup. Et là, il y a plein de choses qui commencent à venir dans nos têtes.
T'es
sûr que c'est vraiment réel, toutes ces histoires de prières, de Bible, de Dieu, de salut, de nouvelle naissance. Le bateau commence à bouger dans tous les sens. La tempête s'est levée. Je vais vous donner un grand secret. Le diable,
Satan,
il peut souffler sur vous. Il peut souffler tout ce qu'il veut sur vous. Si vous êtes ferme, il abandonnera la partie. Eh oui. Et ça, la fermeté, c'est quelque chose.
Gushikama.
C'est une grosse arme. C'est un gros bazooka contre Satan. Ah, ça, c'est clair. Vous savez, quand le diable vous bombarde, n'hésitez pas. Hein. Il faut pas hésiter. Faut pas hésiter, vous sortez les armes du Seigneur.
Hein.
Et une de ces armes, tenir ferme. La Bible nous donne, pourtant c'était un homme de l'Ancien Testament, qui avait vraiment très très peu de connaissances. Il a vraiment vécu des choses difficiles, c'était Job. Franchement, l'histoire de Job, alors souvent l'histoire de Job est extrêmement mal comprise. Job, c'était un homme très riche. Qui était du Moyen-Orient. C'était certainement quelqu'un qui vivait en Arabie à l'époque. Le livre de Job, pour information, pour ceux qui lisent beaucoup leur Bible, c'est juste avant les psaumes. Cherchez pas plus longtemps. Les psaumes, vous savez où c'est? Juste avant, c'est le livre de Job. Le livre de Job.
C'est...
Seigneur, donne-moi un job. Et Job, c'était quelqu'un qui essayait vraiment de marcher avec le Seigneur selon sa connaissance. On
ne
va pas faire un gros résumé de l'histoire de Job, mais je vais quand même vous donner envie de le lire, en tout cas le début et la fin du livre. Et si vous avez du mal à dormir, lisez tout le milieu du livre. Au début du livre, vous allez voir un homme qui essaye de marcher avec Dieu. C'était quelqu'un qui était sans alliance, enfin disons, il n'avait pas une alliance précise avec Dieu.
Il
connaissait Dieu dans un sens. Il avait soif de Dieu, cet homme. Sa connaissance et sa recherche parfois étaient un peu mal dirigées. Il avait des enfants, il avait des biens, il avait tout ça, tout allait très bien. Tout marchait très bien. Toute sa famille, sauf sa femme qui va lui faire des reproches. Puis après, c'est tous ses biens. Tout disparaît. Le diable détruit la vie de Job.
Et
sa femme lui dit: maudit Dieu et meurs. Et là, Job va commencer son expérience de souffrance.
Hein.
Au milieu de toutes les circonstances. Rappelez-vous toujours d'une chose. Ça, El Shaddai, vous devez le savoir. Les mauvaises choses ne viennent jamais de Dieu. Jamais de Dieu. S'il t'arrive quelque chose de mauvais, ne dis jamais: Seigneur, pourquoi tu m'envoies ça? Dieu n'envoie jamais le mal. Jamais le mal. Par contre, Dieu veut que tu apprennes à utiliser le mal et à le changer en bien.
Ça, tu dois
prendre une décision.
Et
plus le diable aura essayé de faire des choses contre toi, plus tu dois être déterminé
à
ce que ta victoire soit immense. Vous savez, Dieu nous parle d'avoir une sainte colère quelque part. Et ça, c'est quelque chose que nous devons avoir. Nous ne sommes pas appelés à nous faire battre.
Mais
nous sommes appelés à répondre.
Ah,
Satan, tu as volé ça.
Satan, on va dire.
Tu vas voir ce que je vais faire. Toute ma vie, je vais la dédier. Ouh, là, le diable, il n'aime pas entendre ces choses-là. Je me souviens d'un frère, un grand serviteur de Dieu. Un jour, il a perdu sa fille. Parce que sa fille était extrêmement malade, elle est morte. Et cet homme, il a dit: le jour où ma fille est morte, le diable a pris vraiment un mauvais tournant dans sa carrière professionnelle.
Satan,
et il a dit: je veux 1 million d'âmes pour le Seigneur. Et cet homme, c'est son objectif. Et jusqu'au bout, il ira. Le diable sera perdant. Sa fille est au ciel, elle croyait. Mais c'est vrai qu'elle est morte. Et elle avait quoi, peut-être 16 ans ou 17 ans. Vous devez apprendre à tenir ferme devant les circonstances les pires. Vous devez apprendre à tenir ferme. Ferme. Le diable a peut-être pu voler des choses parce que c'est un sale voleur, un destructeur, mais vous devez réagir.
Ah,
il y a quelque chose qui doit monter en vous et dire: Satan, tu as fait ça dans ma vie. Dans les circonstances dans lesquelles je suis né, tu vas voir. Et c'est là où tu prends le contraire. Tu décides de dédier ta vie à Dieu. Complètement. Tu choisis tout pour le Seigneur.
Et
là, tu vas voir, Dieu va commencer à travailler dans ton cœur. Tu vas avoir mal. Vous savez, Dieu ne peut pas utiliser un instrument sans que cet instrument n'ait pas souffert. C'est pas que Dieu veuille le faire souffrir.
Mais
c'est une des meilleures écoles pour l'homme. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Bénin, Aujourd'hui, on voit son grand ministère. Cet homme, il bégayait, il était comme ça.
Il était comme ça.
Il parlait comme ça. Un jour, j'ai vu un interview, justement, quand il est retourné en Israël où il a grandi. Et son professeur nous disait comment il parlait
avant.
Vous savez, quand vous êtes adolescent et vous parlez comme ça, vous savez ce que ça veut dire. On vous fait souffrir le martyr. À l'école, vous êtes la brebis galeuse de qui on se moque. À la maison, vous êtes celui en qui on ne peut pas croire parce que vous êtes un raté d'avance. Mais cet homme, il a rencontré Dieu. Et quand il a rencontré Dieu au début, sa famille était encore pire envers lui. Ils ont été très très durs avec lui. C'était le premier qui a été sauvé dans sa famille. Il a souffert.
Mais
il a été visité par Dieu. Parce que cet homme, il en voulait. Il
ne
voulait pas se laisser avoir. Job, il était là. Il a tout perdu. Comme ça, du jour au lendemain. Et Job, il n'avait pas la connaissance que toi et moi on a. Job, il marchait avec une connaissance qui avait été transmise oralement de Dieu. C'est comme ça qu'il marchait dans cette époque-là. Job a vécu au temps des patriarches. C'est-à-dire, oui, Abraham, Isaac et Jacob.
Etc.
C'est-à-dire environ 2000 ans avant Christ.
La loi
de Moïse n'était même pas écrite, ils n'avaient pas de connaissance écrite de Dieu. Job perd tout. Et il va essayer de s'accrocher. Et il va voir ses amis qui vont venir. Et qui vont raconter des histoires. Et des histoires. Et des philosophies sur Dieu. Et des moi je pense que. Moi je pense que Dieu est comme ci. Moi je pense que Dieu il est comme ça.
Moi.
Et Job il marche. Dans leurs histoires pendant une période. Et d'un seul coup, il commence à rechercher, à avoir une nouvelle révélation de Dieu. Dieu se révèle à lui d'une façon extraordinaire. Il lui montre sa grandeur. Et Job est complètement confondu. Il est tellement confondu qu'il se repent. Il se repent. Sincèrement. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire à la fin?
Ben
regardons Job 42. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent souvent, « Ah, j'ai pas de chance, il m'arrive un malheur, je suis comme Job !» La prochaine fois, tu lui diras, ah, donc tu as été complètement restauré et t'en as eu je ne sais combien de fois plus.
Non,
t'as pas compris, Dis-lui à ce moment-là, t'as pas lu l'histoire de Job. La Bible nous dit la chose suivante. Verset 10, 42. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda quoi? Job était un homme très riche au départ. Donc il est devenu doublement
riche.
Alors, regardez verset 11. Des hypocrites reviennent. Tous ses frères et toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ah, ça c'est clair. Une fois que la bataille est finie, que la guerre est finie, on était avec toi. Hein.
Oh, qu'est-ce qu'on est amis.
On est des bons potes.
Partageons
hein.
La joie, oui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, oui.
Oui. Allez, mangeons avec ceux qui mangent. Vous savez, des gens comme ça, je vais vous dire une chose. Vous voyez, les gens qui sont comme ça, qui viennent après la bataille, ce sont des gens qui ne vivront jamais rien avec Dieu. Ils vivent rien, ces gens-là. Parce qu'ils veulent jamais aller à la bataille. Regarde les autres. L'église El Shaddai. Ils vont s'en sortir. Ils vont pouvoir payer l'Odéon. Ils savent pas ce qu'on va se dire. Les gens sont là. Je vous assure. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien. Ils ne veulent jamais être au centre où là, justement, c'est là où tu apprends tout. Les gens veulent tout de suite. Mais ils ne savent pas qu'il y a une bataille de la foi. Qu'il va falloir se tenir ferme, que ça va souffler, qu'on va se foutre de toi, qu'on va t'humilier. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. Et c'est le secret de la révélation de Dieu. Si tu veux vivre une petite vie chrétienne, tu suis les autres. Si c'est ça que tu veux vivre, tu ne connaîtras pas Dieu. D'un seul coup, tu vas mourir, tu vas monter au ciel, tu vas faire. C'était ça, la gloire de Dieu.
Wow.
Comme je le dis souvent, il y en a qui vont avoir des chocs culturels quand ils vont arriver au ciel. Il y en a plus d'un qui va avoir un choc culturel quand il va arriver au ciel. C'était ça, la présence de Dieu. Et le Seigneur dira, voilà ce que j'avais pour toi. Mais
tu
étais incapable de tenir ferme. C'était comme une mouche. Une mouche, vous faites... La mouche, elle fait... Vous aiderez Placide à rentrer chez lui. Il se prépare à aller au sport.
Il n'y a aucune bataille à négliger. Amen. Yo.
Tenir ferme.
Guhagarara ushikamye.
Tenir ferme.
Guhagarara ushikamye.
Job, c'est ce qu'il a fait.
Yobu nicyo yakoze.
Il souffrait comme une bête.
Yarababaye
n'igikoko. Au milieu de toute l'adversité.
Hagati y'ukugwa.
Avec un manque de connaissance de Dieu.
Atabumenye bw'Imana afise.
Avec les mauvais amis qui sont venus manger après chez lui.
N'ababagenzi munyuma baje bagasangira.
Une fois que la bataille était finie.
Ingwani maze kurangira.
Frères et sœurs,
Benedata,
si vous voulez être fort,
nimba mukomeye,
il va falloir faire face aux batailles.
Ni vyiza kumenya kuzohura ni
ntamba l'adversité.
Uzohura n'ibikugwa.
À tout ce qui peut se présenter devant vous.
Abansi benshi bazoza imbere yawe.
Vous voulez être fort.
Uragomba gukomera. Ukomere.
Ça ne se fera pas en écoutant la parole et en disant amen.
Ntibizokoreka mu mwanya muto wumvise ijambo ry'Imana uvuga ngo amen. Oya.
Ça sera quand tu es. Quand tu es ici, c'est pour être nourri. C'est pour recevoir. Tu reçois. Et quand tu es dans la rue, quand tu es chez toi, quand tu es dans la vie, c'est là où ça va souffler. C'est là où l'adversité va venir. c'est là où l'adversité va venir.
Mais
tu te rappelleras de ce que tu as entendu.
Ce qui a été
déposé à l'intérieur de toi.
Ça
va ressortir d'un seul coup.
Ça
va jaillir.
Et
le géant qu'il y a en toi,
Christ,
va sortir. Mais tu vas écraser ton adversité. Mais au début, ça ne sera pas comme ça. Au début, c'est l'adversité qui essaiera de t'écraser. Qui essaiera de t'écraser. L'adversité essaiera de t'écraser. Mais après, tu vas comprendre. Souffrir pour un peu de temps. Ça te permettra d'apprendre à tenir ferme. Il y a plein de versets là-dessus. Il y a des leçons à prendre. Si vraiment vous voulez vivre une vie chrétienne, vous pensez que Comme on dit en français, il y avait un film qui s'appelait La vie est un long fleuve tranquille.
Allô, il filme même pas avant go, go vous imaginez quand go nuru zirurerure rugenda rutekanya.
Ce sera pas le cas.
Oya suko bizogenda.
Si tu veux porter des fruits pour le royaume,
ugomba kwama ivyamwa kubwo bwami bw'Imana.
Ça sera pas le cas.
Suko bizogenda.
Ça ne sera pas le cas.
Suko bizomera.
Donc tu as intérêt de préparer.
Nous disa ko
aussi celui qui est ferme dans ses sentiments.
Go uhagaze naza shikame munyifato yiwe mu rugomba
kwa paix.
Imana izomo hamahoro.
Quand ça vient contre toi.
Non,
je ne bougerai pas.
Non,
je ne bougerai
pas.
Je ne bougerai pas. Je refuse de bouger. La première épître de Pierre nous en parle. La Bible nous dit au verset 8, chapitre 5, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et la Bible nous dit « Résistez-lui en étant ferme dans la foi, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. »
Ngo mwirinde biboreza mwame mugavye umurezi wanyu ari wo wa mugwanizi agenda agenda nk'intambwe yivuga arondera warotsa mugwanye mufise ukwizera gushikamye muzi uko imibabaro ihwanye ni yanyu ishitswa kuri bene data bari mwisi.
Le diable ne supporte pas la fermeté.
Satani ntabwo anezerwa gushikama.
Tu dis non, je ne bougerai pas.
Ukavuga uti simva.
Non, j'écouterai pas tes salades, tes histoires, tes
mensonges.
Non, je ne bougerai pas.
Oya simva.
Non, je ne bougerai pas.
Oya siniganiga.
Mais si tu vas bouger. Non, je ne bougerai pas.
Oya simva.
Je suis là et je resterai là.
Bondinga
Christ. Là où je suis planté. Non, je ne bougerai pas.
Ukavuga utoya ndatewe muri Kristo kandi siniganiga.
Et quand tu prends cette décision,
oh,
tu vas peut-être souffrir. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Mais tiens bien, fort, ferme. Fort. Tu dis non, je ne bougerai pas. Et quand tu commences à tenir ferme sur tes décisions, le problème des gens, je vous assure, dans la culture, vous avez un problème de ce côté-là. Je rencontre peu de Barundi qui sont fermes quand ils prennent une décision. Mais ça, c'est pas bien. Quand tu prends une décision, tu dois tenir ferme. C'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui essayent souvent de négocier des conditions, même une fois. Il y a parfois des gens, ils signent des contrats, ils vous disent des choses, où on se met d'accord, et après, ils essayent de négocier.
Non.
Et quand on leur dit non, non mais, on peut faire. Non. Bon, sinon, non. Ou peut-être. Et tu dis toujours non. Alors là, c'est la grande déception.
Oh,
ben oui. On doit être ferme. Tu dois travailler ton caractère. Tu dois travailler ton caractère. Il y a un verset d'Ésaïe. Il y a un moment où on parle de « Il a rendu mon visage 50 ». 50. Verset 4 et suivant. Jusqu'au verset 7, c'est le verset 7 qui va m'intéresser. On parle de Jésus ici, de son ministère terrestre. Regardez un peu. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples.
pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples.
Le
Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière.
Et là c'est
prophétique, là Ésaïe voit, il a une révélation sur ce qui va se passer à la croix. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats.
Nimisaya ndayitegera abamomora ubwanwa kandi mu maso hanje sinakingije guteterezwa no gucigwa kw'amate.
C'est pourquoi l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai pas été outragé.
Gwari kumwamuhora harantabara nico gituma natetegwa.
C'est pourquoi j'ai rendu quoi? Mon visage semblable à un roc rocher.
Gwo nico gituma ndinduka mu maso hanje hakamera nkibuye.
Sachant que je ne serai pas honteux. Celui qui me justifie
est...
Il est proche. Il est proche. Je
vais
te dire une chose. Si tu rends ton visage dur contre les circonstances et contre le diable, celui qui va justifier ta cause, il est proche. Tu pourras peut-être être humilié par les circonstances, par les gens, par même Satan qui aurait essayé de t'humilier, à de te rendre aussi stupide qu'un chien, entre guillemets. Si tu te tiens ferme dans tes sentiments, il va t'assurer la paix. Si tu rends ton visage dur comme le roc, il va te justifier. Il va te justifier. Et quelques années après, tu diras, voici en celui en qui j'ai cru. Le problème, c'est que les gens veulent voir ça du jour au lendemain. Tiens ferme. Tiens ferme. Ne laisse pas un millimètre à l'ennemi. Si tu tiens ferme, que tu marches dans sa parole sans vouloir bouger, alors tu verras, il va venir te justifier. Peut-être que ça mettra du temps, mais je vais te dire une chose, dans Agé il y a une parole pour toi.
Agé
chapitre 2 verset 9, certains vous savez pas où se trouve Agé. Regardez Malachi, Zacharie et avancé âgé. Joyeux, ça veut dire. Chapitre 2, verset 9. Ça, c'est voir comme la parole de Dieu voit. Un jour, quelqu'un m'a donné ce verset.
Âgé
2, 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Arrête de t'attacher à la première qui va être charnelle, qui va être basée sur tes sentiments et tes raisonnements. Et commence à marcher dans la future gloire de ta maison future. De ce que tu veux voir se réaliser. Si tu
as
une petite vision, tu verras des petites choses. C'est vrai que tu ne souffriras pas trop. Tu ne souffriras pas trop. Parce que le diable fout la paix à ceux qui ne portent pas de fruits pour le royaume.
Il
leur souffle un peu dessus, ils sont comme les mouches.
Tu
n'es pas appelé à être une mouche.
Tu es
appelé à être un roc.
Fort,
puissant.
Ukomeye.
Pour la gloire de ton Dieu. Tu veux porter du fruit? Sois prêt, ça va secouer. Il faut que tu tiennes ferme. Solide. Inébranlable. Puissant. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois puissant. Et pour ça, tu dois tenir ferme. Résistez-lui, dit la Bible. Résistez-lui avec une foi. Ferme. Ferme. Je vous ai raconté un jour l'histoire d'un grand businessman qui, quand j'ai entendu son histoire, il avait plus de 120 000 employés dans le monde.
Un chrétien.
Cet homme, il est né, il a grandi dans une famille. Il était illettré. Un jour, il est venu à une croisade d'évangélisation où il y avait Billy Graham. Il a reçu le Seigneur ce jour-là. Sa vie a commencé à être changée. Cet homme, il a commencé à vouloir s'éduquer parce qu'il était bête.
Et
si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il avait 24 ou 25 ans, pour vous dire. Il
ne
savait pas lire, il ne savait pas écrire. Il était dans un pays où tout le monde savait lire et écrire. Un pays dit développé. Bon, il a mis des dictionnaires partout dans sa maison. Dans les toilettes, il y avait des dictionnaires. Partout. C'est pas une blague, hein, c'est réel. Sa femme se disait qu'il était devenu un peu... Et il disait à sa femme... Tu peux lire là, qu'est-ce que c'est ce mot là? Ça veut dire quoi? Et c'était sa femme.
Elle
lui lisait les mots et puis il a appris comme ça. Il a appris à lire, il a appris à écrire. Et il est devenu super éduqué au bout de quelques années. À tel point qu'il pensait que tout le monde avait au moins la connaissance qu'il avait. Et il s'est aperçu qu'il y avait la plupart des gens qui n'avaient même pas la connaissance qu'il
avait.
Et cet homme, il avait une vision. Il avait la vision de devenir un grand businessman.
Et
il a commencé à faire du business. Il a commencé à faire des trucs. Il a tout perdu. Bon, sa femme a regardé ça. Bon, quelques temps après, il s'est un peu relevé. Il a recommencé un business. Il a encore tout perdu. Quelques temps après, il se relève un petit peu. Il refait du business. Il a encore tout perdu. Sa femme a commencé à lui dire,
tu es
sûr que tu veux faire du business?
Oui, chérie,
j'ai quelque chose à te dire. Je voudrais recommencer à faire du business.
Tu
es d'accord? Il a recommencé une quatrième fois.
Il
s'est planté, il a tout perdu. Il y a de quoi être découragé, non? Il y a de quoi tout remettre en question. Mais il a encore dit à sa femme, je vais recommencer un business. Et cette fois-là, il est devenu millionnaire. Comme on parle en franc, on va dire milliardaire. Et cet homme-là, à l'époque où j'ai entendu son témoignage, il y a plus de 15 ans, il avait 120 000 employés dans le monde. Pensez pas que les choses vont se passer comme ça. Ou c'est parce que vous êtes sur un terrain qui s'appelle les États-Unis d'Amérique qu'il y a juste à sortir dans son jardin, accueillir des billets de banque et à démarrer un business.
Ou
de les ramasser dans la rue. Ça, c'est faux.
C'est faux.
Si tu veux réussir, il va falloir que tu tiennes ferme. Que
tu
aies une vision. Que tu t'accroches à cette vision. Un jour, Bénin,
il
commençait à faire de la télévision. Son ministère commençait à bien marcher. Mais il s'était engagé dans des trucs extrêmement grands au niveau finance. Et alors, il y avait plein de factures qui arrivaient dans son bureau. Évidemment, son administrateur est venu voir. Et il a dit, révérend, on a toutes les factures que nous avons. On n'a pas d'argent.
Et
ça représentait, je crois, pas loin de 100 000 ou 200 000 dollars, quelque chose comme ça. Et Bénin, il a commencé à être enseigné, il a cherché des enseignements sur la dîme. Il avait un problème à l'époque à donner au Seigneur. Et Il a dit une chose, il a vraiment une révélation par rapport à ça. Et il a dit à sa secrétaire, écrivez un chèque pour tel ministère.
Écrivez un chèque pour ça.
Ses employés, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis une lettre de démission sur son bureau. Tous sauf, je crois, un. Tout le staff est parti. Frère, nous étions très heureux d'être bénis par votre ministère. Mais pour l'instant, nos obligations familiales nous obligent à vous laisser tout seul. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les malheureux. Ils ne savaient pas ce qui attendait pour son ministère. C'est au moment difficile où on voit si t'es ferme.
Ce
n'est pas quand tout va bien.
Que
tu as un bon boulot.
Que
Dieu peut dire gloire à Dieu. C'est facile. N'importe qui peut le faire. Ou quand c'est l'argent qui te rentre comme ça, que tu n'as pas gagné, que tu dépenses, c'est facile à faire, de dire merci Seigneur, parce que je suis prospère. C'est dans les moments difficiles que tu dois apprendre à tenir.
Ferme.
À celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses décisions, tu lui assure la paix. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Et celui qui me justifie n'est pas loin. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.